l'ange du Seigneur annonce à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur, et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Que ta grâce, Seigneur, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Radio Présence à Castelsarrasin, 93.3.
Et bonjour à toutes et à tous, merci d'écouter les programmes de Radio Présence. Il est 12h passé d'une petite minute à la pendule de Présence, c'est l'heure du Présence Midi. Nous sommes en direct des studios de Lourdes, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Très bon appétit si vous avez la chance d'être déjà à table, si vous êtes assis confortablement dans votre voiture. Eh bien merci d'écouter les programmes de Radio Présence. Dans quelques instants, nous allons nous transporter au centre Assomption de Lourdes qui poursuit sa mue, et ce sera le sujet de la chronique verte de Benoît Guillard dans un tout petit instant. Je vous proposerai de parler de Pierre Frassati. Vous le savez peut-être, il a été canonisé la semaine dernière à Rome par le pape Léon XIV. Ce sera le sujet de la chronique littéraire de Nicolas Dargegène juste après la chronique verte. Nous ferons un point sur l'actualité, bien sûr, avec le journal complet de notre région. Et puis, nous resterons sur Lourdes, si vous le voulez bien, pour la chronique Solidairement Vôtre, une chronique qui nous est proposée toutes les semaines par Anne, que nous retrouverons donc après le journal. Et enfin, nous terminerons avec Victor Hugo, qui nous parlera de notre belle région de l'Occitanie. Allez, débutons sans perdre maintenant un petit instant avec la chronique verte de Benoît Guillard.
La chronique verte, Benoît Guillard.
Chers auditeurs de Radio Présence, bonjour. Nous nous retrouvons cette semaine encore pour la chronique verte de Benoît Guillard. Aujourd'hui, je suis à Lourdes. Je suis un an après de retour au centre Assomption de Lourdes, qui a fait l'objet d'une de mes émissions il y a un an déjà. Et si je suis au centre Assomption de Lourdes, c'est parce que depuis un an, il s'est passé un certain nombre de choses. Nous avions rencontré Sœur Anne Descours, qui nous avait expliqué un petit peu l'évolution et les réflexions en cours. Et aujourd'hui, je suis venu voir un petit peu des choses très concrètes. Je suis donc aux côtés de Damien Aviron-Violet, qui est le responsable projet pour le centre Assomption de Lourdes. Et je suis également avec M. Philippe Fauré, qui est l'animateur régional pour le groupe de restauration Elior. Deux mots de présentation peut-être, Damien, et puis Philippe. Bonjour Damien.
Bonjour à vous, heureux de vous retrouver un an après pour vous décrire en tout cas ce qui a été initié, ce qui est en train de se jouer en tout cas 12 mois après au sein de cette maison, et l'ouverture du coup aux enjeux de transition écologique et sociale en lien avec l'ancrage spirituel de cette maison, et un certain nombre de réalisations concrètes que nous allons vous présenter aujourd'hui.
Bonjour également Philippe.
Bonjour, Philippe Fauré. Donc je suis responsable de secteur. On va juste reposer un peu les bases pour la société de restauration Elior, restauration collective, et on est là pour partager un projet fou et ambitieux autour de la nature, le bien-être, et le mieux manger pour ce qui me concerne.
Alors, chers auditeurs, on va vous expliquer tout ça, puisque Damien, qui pilote ce projet pour le Centre Assomption, va peut-être tout simplement nous expliquer un petit peu en quoi cela consiste, de quoi parle-t-on précisément dans ce contexte du Centre Assomption.
Oui, alors pour reprendre rapidement, parce que le projet, hein, en effet, une dimension un peu folle et ça nous va bien, on le revendique haut et fort. Et on bâtissait en tout cas la démarche sur trois piliers. La première, c'était mettre en cohérence la maison avec le message qu'elle souhaite porter, j'y reviendrai après, notamment avec le projet alimentaire. La deuxième partie, c'était de ouvrir la maison plus largement dans son programme de retraite et de formation sur ces enjeux-là, pour être capable d'être un centre un peu ressource, un campus en tout cas pour celles et ceux qui souhaitent se former et apprendre sur ces enjeux-là. Et puis une autre dimension, de partager l'espace qui nous est confié, ça soit aussi bien la partie jardin, j'y reviendrai également, et puis aussi l'immensité du bâtiment qui nous abrite, les 5000 m² qui sont au-dessus de nous là.
Alors Damien, justement, puisqu'on parle de restauration, que se passe-t-il? Le centre Assomption devient un restaurant?
Alors on y est presque, en tout cas pour les convives de la maison c'est déjà le cas, donc on a un partenariat qu'on a esquissé depuis un an et qui se met en œuvre durant cet été, où on a essuyé quelque part les plâtres tous ensemble, en tout cas dans notre démarche, en lien avec un jeune maraîcher qui est juste derrière la colline à Ségus, donc en hyper local, avec une pratique agroécologique exemplaire, et qui nous alloue la moitié de sa production maraîchère depuis le printemps, et donc une bascule également côté cuisine, donc avec les équipes de Philippe au niveau de la cuisine centrale, et qui eux sortent complètement du cadre habituel, en tout cas en repartant vraiment des livraisons du panier que Aurélien leur livre chaque semaine, et qui composent à partir de ces paniers, de ces produits bruts de grande qualité, les menus de la maison, au gré encore une fois des retraites et des demandes de nos hôtes.
Alors Philippe, moi je connais ce monde de la restauration collective, j'y ai œuvré pendant quelques années dans un autre ciel, et là je découvre d'un seul coup que le monde de la restauration collective n'est pas une petite entreprise, une très grosse entreprise comme le groupe Elior, s'intéresse à la cuisine locale, s'intéresse à un centre d'accueil qui a une mission d'accompagnement sur un axe religieux, et réfléchit à une autre façon de faire de la cuisine.
Alors c'est très compliqué, j'ai la chance d'être quand même dans une société, une grande société de restauration collective qui a cette démarche d'aller sur le local, le français, et de bien rémunérer ses agriculteurs, et le projet fou qu'on a partagé et auquel j'ai adhéré, c'est de le faire localement et de développer ça avec un maraîcher local qui est merveilleux, on pourrait en parler pendant des heures, et de remettre un peu le sens de la nourriture, de comment manger, comment bien manger, au centre de l'assiette, et de revenir à des bases toutes simples, de dire la terre nous produit des éléments naturellement, et à nous de les mettre en valeur quand ils sont là. Et donc, si on doit manger de la courgette trois fois par semaine, on mangera de la courgette trois fois par semaine. Donc c'est un projet fou, parce que c'est des produits de qualité qui sont plus chers. Mais du coup, il faut trouver un équilibre. Et cet équilibre passe par le fait de dire, la protéine animale, on ne va pas la mettre à tous les repas. Par contre, on va apporter ce qu'il faut pour que la personne ait suffisamment de protéines végétales et qu'il n'y ait pas de manque de carence au sein de la personne, et qu'elle sorte de table avec la faim. Et c'est remettre aussi au centre de l'assiette la cuisine et le cuisinier. Donc c'est un projet fou, il faut des hommes pour ça. Et c'est là où on a essuyé des plâtres, parce qu'il faut trouver les bonnes personnes pour mener à bien ce projet, parce que moi je suis responsable de secteur, je ne suis pas là tout le temps, et du coup c'est avec les hommes et avec les équipes qu'on arrivera à faire ce projet merveilleux.
Alors Philippe, et chers auditeurs, vous voyez un petit peu l'enjeu, quand j'écoute Philippe qui vient dans un monde qui est quand même un monde où c'est rigoureux, et où les enjeux c'est la force de frappe de l'achat et les économies réalisées, et d'un seul coup Philippe nous raconte qu'on oublie tout ça pour le moment, et on recrée du lien entre le jardinier, le cuisinier, le mangeur, moi je l'appelle le mangeur, hein, tout simplement. Et tout ça, ça va se réaliser d'une façon innovante, en totale création, et ça va se réaliser à l'Assomption, c'est bien ça ?
Oui, à l'Assomption. Alors, quand j'ai découvert le site il y a 2 ans, je crois, on s'est rencontrés avec Benoît, et ensemble, moi quand je suis rentré, j'ai dit mais il y a quelque chose à faire. Benoît, il était déjà dans le projet, donc il m'a dit oui, il y a quelque chose à faire, donc on a travaillé ensemble. Et aujourd'hui, oui, c'est faisable, mais il faut changer toutes les mentalités, ça va être le plus dur. C'est de dire, on avait prévu quelque chose, mais on ne va pas le faire, parce qu'on va vous faire autre chose. La terre aujourd'hui, elle m'a fourni ça. Je vais vous le cuisiner et on va oublier le menu. Donc, c'est toute cette mentalité à changer, de dire, comme à la maison, on ouvre le frigo, qu'est-ce qu'il y a? On fait à manger. Donc, c'est compliqué parce qu'aujourd'hui, on a un cadre. On est habitué à travailler dans un cadre. Alors, on aura toujours le cadre pour tout le monde budgétaire, mais là-dedans, on ouvre les voiles. Voilà.
Alors, non seulement on ouvre les voiles pour améliorer le repas quotidien des gens qui viennent au Centre Assomption et des gens qui y vivent, mais en plus l'ambition c'est d'ouvrir cette possibilité-là à tous les acteurs qui sont intéressés par la démarche sur le territoire de Lourdes, c'est bien ça?
Oui, on a accompagné dans le projet, on vous a accompagné, la maison Assomption, dans un projet de cuisine centrale. Donc l'idée aussi, c'est de faire profiter de cette démarche à toute personne qui souhaiterait recevoir des repas et de pouvoir livrer ces repas faits avec des produits sains et du terroir.
Damien, je me tourne vers vous à nouveau. Je sais que la cuisine centrale est en place, les équipes sont en place maintenant. J'ai assisté tout à l'heure à une commission restauration où je me suis réjoui de voir la relation humaine qui était établie entre les acteurs. C'est une vraie fraternité, une vraie équipe qui fonctionne. Et donc aujourd'hui, l'ambition c'est de le faire savoir. Et je crois que vous préparez tous les deux un événement important d'ici la fin du mois de septembre pour justement faire visiter et parler de ce projet.
Oui, absolument. Comme disait Aurélien tout à l'heure, durant cette fameuse commission restauration, la relation producteur et cuisinier, on la rêve souvent. Ici, en tout cas, on expérimente et on essaie de la faire, en tout cas. Et c'est une véritable joie pour l'ensemble des acteurs et des parties prenantes du projet. Et donc, pour le faire savoir, on vous convie à un événement festif, justement, au jardin et autour, justement, d'un buffet qui sera préparé par la cuisine de la maison, le 25 septembre, le jeudi 25 septembre à 18h, pour vous présenter plus globalement la démarche, et encore une fois, qui démarre par la cuisine et les jardins, et puis aussi plus largement, parce qu'encore une fois, on n'est qu'au début de l'histoire. Donc voilà, vous pouvez bloquer vos agendas à ce moment-là et nous rejoindre au jardin de l'Assomption le 25 septembre à 18h.
Alors voyez-vous, chers auditeurs, si vous n'êtes pas loin de Lourdes ou c'est à Lourdes, et si le 25 septembre vous avez un petit trou dans votre agenda, n'hésitez pas à venir au Centre Assomption. Vous y verrez à la fois un centre qui est dynamique et qui se relance sur un chemin neuf. Et puis vous y verrez une magnifique réalisation autour de cette cuisine centrale et avec cette ambition de faire un repas dans l'esprit de l'écologie intégrale. Donc un repas qui part du local, qui est bio, je le précise, et qui prend en compte à la fois les contraintes, bien sûr, de santé, les contraintes financières, puisqu'on ne peut pas faire un repas à n'importe quel prix. Et c'est tout la subtilité que nous a expliqué tout à l'heure Philippe sur la protéine animale ou protéine végétale, et avec une ambition très forte qui est de faire en sorte que ce repas soit un petit peu un repas neuf, un repas nouveau, un repas qui nous réconcilie avec la nature, avec la création. Alors, Philippe, deux petits mots peut-être sur cette journée du 26 septembre, peut-être que vous pouvez nous dévoiler quelques aspects.
C'est un peu prématuré, mais ça va être tourné autour du végétal et de ce que pourront nous fournir les jardins d'Aurélien, avec quelques, pour les gens qui aiment bien la viande, il y aura quand même quelques beaux produits locaux, bœuf, porc noir de Bigorre, bien entendu, l'accent va être tourné autour du végétal, avec plein de petites surprises, voilà.
Super. Bon, écoutez, en tout cas, moi, j'essaierai d'être là, c'est sûr. Hein. Alors, j'en profite, puisque je suis avec Damien, je sais aussi, parce qu'à Lourdes, on s'informe qu'il se prépare aussi une messe un peu particulière, puisque le mois actuel, c'est le mois de la création pour la démarche entreprise dans le cadre de Laudato aussi. Et donc, l'Assomption a prévu de faire un événement, justement, autour du mois de la création. Vous pouvez nous en dire quelques mots, Damien ?
Oui, ça tombe Bien, à point nommé, on démarre ce temps-là lundi prochain, lundi 1er septembre, avec tout ce temps de la création qui démarre. Et suite à, voilà, dans les pas du pape François qui nous a quittés au printemps et le pape Léon XIV qui a pris en tout cas la suite et qui continue ce chemin-là, nous avons choisi avec le Monseigneur Mika de célébrer en tout cas ensemble la première messe pour la sauvegarde de la création qui a été intégrée au missel romain cet été et de la célébrer dans les jardins de l'Assomption le 4 octobre, le jour de la Saint-François d'Assise qui clôture justement ce temps de la création. Donc l'heure est déjà fixée, ça sera à 17h le 4 octobre prochain au jardin de l'Assomption. Là encore, soyez nombreux et encore une fois vraiment les bienvenus toutes et tous.
Voilà, chers auditeurs, le 4 octobre, 17h à l'Assomption, avec cette magnifique messe qui sera célébrée par Monseigneur Mika pour clôturer ce mois particulier qui est le mois de la création à partir du 1er septembre jusqu'au 4 octobre. Damien, merci beaucoup. Philippe, merci beaucoup. Et puis, chers auditeurs, écoutez, je vous donne rendez-vous à l'Assomption au mois de septembre et au mois d'octobre si vous en avez le temps, et puis sinon à notre prochaine émission. Au revoir.
La chronique verte, Benoît Guillard.
Rendez-vous est pris, bien sûr, cher Benoît, déjà avec votre émission et dès vendredi prochain. On continue en musique, Jacques Dutronc qui nous propose de faire un petit tour dans son petit jardin.
C'était un petit jardin avec une table et une chaise de jardin. Avec deux arbres, un pommier et un sapin. Au fond d'une cour, à la chaussée d'Antin. Mais un jour, près du jardin, passa un homme qui au revers de son veston portait une fleur de béton. Dans le jardin, une voix chanta: de grâce, de grâce, Monsieur le promoteur, de grâce, préservez cette grâce, de grâce, Monsieur le promoteur, ne coupez pas mes fleurs. C'était un petit jardin qui sentait bon le métropolitain, qui sentait bon le bassin parisien. C'était un petit jardin avec un rouge-gorge dans son sapin, avec un homme qui faisait son jardin. Au fond d'une cour, à la chaussée d'Antin. Mais un jour, près du jardin, passa un homme qui au revers de son veston portait une fleur de béton. Dans le jardin, une voix chanta: de grâce, de grâce, Monsieur le promoteur, de grâce, préservez cette grâce, de grâce, Monsieur le promoteur, ne coupez pas mes fleurs. C'était un petit jardin qui sentait bon le bassin parisien. À la place du joli petit jardin, il y a l'entrée d'un souterrain où sont rangés comme des parpaings les automobiles du centre urbain. C'était un petit jardin au fond d'une cour à la chaussée d'Antin. C'était un petit jardin au fond d'une cour à la chaussée d'Antin.
Présence à Moissac. 93.3.
Pier Giorgio Frassati a été canonisé il y a de cela à peine une semaine à Rome. C'est en compagnie d'ailleurs de Carlo Acutis, deux jeunes saints qui viennent enrichir notre vie chrétienne. Et c'est de ce saint, de Pier Giorgio Frassati, dont il est question aujourd'hui dans la chronique littéraire de Nicolas Dargegène.
Bonjour à tous. J'aimerais vous présenter aujourd'hui Les derniers jours de Pier Giorgio Frassati, écrit par sa sœur Luciana Frassati et paru aux éditions Pierre Tecchi en juin 2025. Il s'agit d'une réédition d'un livre paru en 1952 à l'occasion du cinquantenaire de la naissance du bienheureux Pier Giorgio Frassati. Luciana Frassati avait un an de moins que son frère. Elle est décédée en 2007 à l'âge de 105 ans. Elle a été témoin de la béatification de son propre frère en 1990 par Jean-Paul II, qu'il avait également déclaré saint patron des JMJ de Sydney en 2008. Dimanche 7 septembre 2025, le pape Léon XIV a canonisé deux jeunes saints, Carlo Acutis et Pier Giorgio Frassati. Carlo Acutis, nous en parlerons dans une prochaine chronique. Carlo Acutis est mis en avant, on ne peut pas compter le nombre de livres qui sortent sur lui, alors que saint Pier Giorgio Frassati reste un peu plus dans l'ombre. Et pourtant, c'est un très bel exemple pour la jeunesse. Né le 6 avril 1901 dans une famille turinoise marquée par la réussite sociale mais éloignée de la foi, Pier Giorgio découvre très tôt la force de l'Eucharistie et de la prière quotidienne. Il s'engage très jeune auprès des plus démunis et incarne une foi vécue dans l'action et le service. Passionné de montagne et animé par une vie fraternelle intense, il montre à la jeunesse qu'il est possible de viser la sainteté sans quitter les chemins ordinaires. Mais il a aussi le cœur large. En cachette de ses riches parents, il donne aux pauvres jusqu'à ses chaussures quand il n'a que cela sur lui. Son témoignage demeure celui d'un jeune homme profondément libre, joyeux, sportif, uni au Christ. En 1924, il fonde la Compagnie des Tiplouches, un groupe d'amis chahuteurs passionnés de montagne. Pier Giorgio possédait une âme bien trempée, attentive aux autres. Sans cesse en vadrouille auprès de ses pauvres, ses conquêtes, un petit calepin dans sa poche, noirci de noms. Il court à travers tout Turin répandre joie, soin et attention. Lors de la béatification, le 20 mai 1990, Jean-Paul II dira « La foi et la charité, véritable force motrice de son existence, le rendirent actif dans le milieu dans lequel il vécut, en famille et à l'école, à l'université et dans la société. Elles le transformèrent en apôtre du Christ, joyeux et enthousiaste, en disciple passionné de son message et de sa charité. » Comme l'écrit le cardinal Vesco dans la préface du livre, c'était il y a exactement 100 ans, autant dire une éternité, tant le monde dans lequel il a vécu n'a plus grand-chose de commun avec le monde et la jeunesse d'aujourd'hui. Il est un jeune de son temps, c'est-à-dire de notre temps, et pourtant sa vie parle aux jeunes de notre temps. Elle ne parle d'ailleurs pas seulement aux plus jeunes, tant une part de chacun de nous peut s'identifier à la radicalité de cette vie joyeuse, jeune, exigeante, qui disait à ses amis de la Compagnie des Tiplouches « À nous, il n'est pas permis de vivoter, nous devons vivre ». C'est le propre dessein d'être à la fois vraiment de leur temps et aussi de tout temps. Pier Giorgio a brûlé de passion, passion de la montagne et de l'amitié que soudent les dangers de l'alpinisme, une passion qui le dévorera jusqu'à la fin. Passion de la politique, ou plutôt de la justice sociale, nourrie sans doute par la personnalité de son père, le fondateur du journal La Stampa, puis diplomate à Berlin au moment de la montée du nazisme. Passion pour le service des autres, qui aura raison de sa vie en une semaine. Et plus que tout, passion pour le Christ. Cette passion l'avait bien sûr conduit à se poser la question de la prêtrise, mais il se décidera pour une toute autre vocation, la vocation de laïc. Faire de sa vie une vocation, c'est l'assurance de vivre, de dévorer sa vie, la vie avec passion. C'est un chemin sûr de sainteté. La sainteté est un modèle qui peut passer inaperçu pour les plus proches. On s'habitue à tout, même à la sainteté, de ce dont nous partageons la vie. C'est un peu ce qu'a vécu la famille de Pier Giorgio Frassati. Un bon fils, un bon frère, ne donne pas forcément à avoir un grand saint. Il aura fallu sa mort et les innombrables témoignages de gratitude, son aura grandissante dans la mort, n'aura pas raison pour que les yeux se dessillent. Le Seigneur viendra confirmer la sainteté de cette jeune vie par deux miracles obtenus par son intercession, en plus de la non-décomposition de son corps. Le récit de la dernière semaine de sa vie, telle qu'elle a été vécue par sa chère sœur Luciana, est touchant. Tant il révèle une forme de remords de n'avoir pas su discerner la sainteté de son frère aîné. C'est ainsi, c'est humain, et c'est beau de le dire et de l'écrire dans un récit si simple et si poignant. En visitant un malade nécessiteux atteint de poliomyélite, Pier Giorgio contracte la maladie. Il en meurt une semaine plus tard, à 24 ans, le 4 juillet 1925. Tout le petit peuple de Turin est à l'enterrement. Luciana Frassati l'écrit. La rue pouvait à peine contenir les milliers de personnes accourues de tous les points de la ville, uniquement appelées par le souvenir de sa belle âme. À ceux qui s'étaient succédés au grand nombre dans les pièces de la maison et qui avaient voulu mêler leurs larmes aux nôtres et au parfum étourdissant des fleurs et de la cire liquéfiée des cierges, s'ajoutait maintenant la marche incontrôlable d'une foule d'inconnus, vieux et jeunes, pauvres et riches. Ce livre est passionnant car on assiste à la mort ordinaire d'un saint. Luciana, la jeune sœur de ce nouveau saint, va vivre les 6 derniers jours de son frère à son chevet et elle va découvrir qui il était réellement. Elle rappelle que Pier Giorgio avait souvent prévenu les siens en disant « Attention, la mort peut arriver d'un moment à l'autre. La vertu du chrétien est de se tenir prêt à la recevoir, à toute heure et en tout lieu. » Le matin de la Saint-Pierre 1925, Pier Giorgio ne se lève pas comme d'habitude, lui qui y était si régulier habituellement. Et à partir de là, cela va aller très très vite. En quelques jours, moins d'une semaine, Pier Giorgio va partir. Comme va l'écrire sa sœur, une vie qui n'avait guère duré que 24 ans. Marquée par des œuvres magnanimes et secrètes, résumées tout en l'agonie de ces 6 jours, se consumait sous nos regards navrés mais encore inconscients. Nous avions toujours ignoré son étonnante personnalité, de même que la flamme qui le dévorait. Nous ne nous étions jamais souciés de savoir quelle était son action et en vertu de quoi il agissait. Nous ignorions encore la veille de sa mort que s'il était en retard aux heures de repas, c'était parce qu'il avait donné tout son argent à un pauvre et son veston à un autre. Dans la postface du livre, le cardinal Poupart, qui a connu personnellement Luciana Frassati, résume les derniers jours du jeune saint. Cette dernière semaine de Pier Giorgio est semblable à sa courte vie. Le message qu'elle délivre ne représente pas une originalité telle qu'elle nous semble impossible à imiter. Son attitude devant la mort ne relève pas d'une profondeur mystique inégalable. C'est celle d'un jeune chrétien à qui il en coûte de quitter les siens et ses amis, dont les dernières préoccupations sont celles des pauvres qu'il secourait et de sa famille, et qui trouve la paix dans les paroles du prêtre. « Giorgio, tu ne les abandonneras pas. Du ciel, tu vivras en esprit avec eux. Tu leur donneras ta foi et ta résignation. Vous continuerez à être une seule famille. » Finalement, la vie de Pier Giorgio a été une vie cachée, méconnue même par sa propre famille. Sa sainteté a été un chemin ordinaire de fidélité à son Seigneur. Comme le dit l'adage, « Pour vivre heureux, vivons cachés. » Finalement, c'est ainsi que Pier Giorgio Frassati a vécu. Et aujourd'hui encore, jusque dans sa tombe, il est caché. Ses reliques sont conservées dans la cathédrale de Turin, mais cette cathédrale conserve dans une chapelle voisine de celle de Pier Giorgio une relique précieuse, le Saint-Suaire. C'est comme si, même après sa mort, Pier Giorgio se cachait pour laisser son Seigneur briller. Dans l'homélie de la canonisation le 7 septembre, Léon XIV rappelle que Pier Giorgio a rencontré le Seigneur à travers l'école et les groupes ecclésiaux, l'Action catholique, les conférences de Saint-Vincent, le tiers-ordre dominicain, et en a témoigné par sa joie de vivre et d'être chrétien dans la prière, l'amitié et la charité. À tel point que le voyant parcourir les rues de Turin avec des charrettes remplies d'aide pour les pauvres, ses amis l'avaient rebaptisé Entreprise Transport Frassati. Aujourd'hui encore, la vie de Pier Giorgio est une lumière pour la spiritualité laïque. Pour lui, la foi n'a pas été une dévotion privée. Poussé par la force de l'Évangile et son appartenance à des associations ecclésiales, il s'est engagé généreusement dans la société, a apporté sa contribution à la vie politique et s'est dépensé avec ardeur au service des pauvres. Voilà pourquoi il est important de connaître cette belle figure de sainteté, ce nouveau saint dont la voie de sainteté est accessible à tous et de la faire connaître auprès des plus jeunes. Les derniers jours de Pier Giorgio Frassati, écrit par sa sœur Luciana Frassati, paru aux éditions Pierre Tecchi en juin 2025, est disponible à la librairie du Sanctuaire à Lourdes et dans toutes les librairies.
Et merci Nicolas Dargegène pour cette chronique littéraire. On se retrouve dans quelques instants pour faire un point complet sur l'actualité avec le journal régional.
See the crystal raindrops fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining through to make those rainbows in my mind. When I think of you sometime, and I want to spend some time with you, just the two of us. We can make it if we try. We'll be right back.
tears. Wasted water's all that is, and it don't make no flowers grow. Good things might come to those who wait, but not for those who wait too late. We gotta go for all we know. Just the two of us, we can make it if we try. Just the two of us.
Just the two of us.
Just the two of us. Building them castles in the sky. Just the two of us. You and I.
Les assurances se valent, me direz-vous?
Eh bien non.
La mutuelle Saint-Christophe Assurance couvre mon logement, ma voiture et ma santé à prix compétitif.
Et elle œuvre pour un monde fraternel. Cette année, elle fait un don de 50 000 euros à l'Ordre de Malte France pour un accueil Malte à Toulon, un centre qui secourt et soigne les plus démunis.
Enfin, un assureur qui va dans la même direction que ma foi, sans dépasser mon budget.
Mutuelle Saint-Christophe Assurance, l'assurance au cœur fraternel.
Entreprise régie par le Code des assurances. Plus d'informations sur leur site.
Radio Présence à Argelès-Gazost, 91.9.
Bonjour, fièvre catarrhale appelle à la mobilisation des acteurs pour la vaccination contre la FCO1. Mise à disposition des doses de vaccins, l'objectif est de protéger les élevages français en cas de diffusion depuis le nord de l'Espagne où ce sérotype est présent. Les doses de vaccins acquises permettent la vaccination volontaire des ovins et des bovins des départements proches et frontaliers avec l'Espagne. Pyrénées-Atlantiques, Landes, Gers, Hautes-Pyrénées, Haute-Garonne, Ariège, Aude et Pyrénées-Orientales. Ces doses doivent permettre de vacciner l'intégralité du cheptel bovin et ovin de la Haute-Garonne. Cette mise à disposition répond également à une demande forte de la profession agricole pour anticiper une nouvelle épisodie de fièvre catarrhale en vaccinant très en amont de l'introduction du virus sur le territoire national. Ce vaccin est disponible depuis le mois de juillet dernier. Pourtant, au 1er septembre, moins de la moitié des doses nécessaires à la vaccination du cheptel haut-garonnais avaient été commandées par les vétérinaires du département. Depuis le début de l'année 2025, les services de secours en montagne dans les Hautes-Pyrénées ont connu une augmentation de leur nombre d'interventions par rapport à l'année 2024. Cette tendance à la hausse depuis 2019 est due à une fréquentation plus importante du massif pyrénéen durant la période estivale. 63,5% des interventions sont liées à une activité de randonnée. 18 décès depuis le 1er janvier dans les montagnes des Hautes-Pyrénées. Les opérations héliportées représentent 78% des interventions depuis le début de l'année 2025. Forum de l'emploi et de la formation à Quinte-Fonsegrive, près de Toulouse. Vous êtes une entreprise, artisan ou commerçant. Le Forum de l'emploi et de la formation, organisé en collaboration avec Pôle emploi, offre l'opportunité de mettre en relation les entreprises locales et les demandeurs d'emploi en un même lieu, une matinée, le mardi 16 septembre, de 9h à 12h30, au complexe Patrick Pépi, avec plus de 300 postes à pourvoir. Comme chaque année, Montauban invite le public à remonter le temps jusqu'en 1621 avec la fête des 400 coups. Entre histoire et divertissement, venez profiter du 12 au 14 septembre de cet événement emblématique mêlant spectacle en costume, déambulation, concerts, cavaliers et fauconniers, sans oublier la traditionnelle fête foraine. Parmi les rendez-vous, la cavalcade avec les chars des 400 coups dimanche à 14h30 du Quai Poult au cours Foucault, ou bien encore le samedi, une déambulation à 19h30 de la place Lac à la place Roosevelt avec cavaliers, fauconniers, loups, mousquetaires, chars du canon et de la reine des 400 coups et ses dauphines. La foire exposition de Gourdon revient pour une édition exceptionnelle, marquant l'année prochaine 90 ans d'histoire locale et de rencontres régionales. Créée en 1936, elle est aujourd'hui la dernière grande foire du Lot, rassemblant chaque année commerçants, artisans, industriels, associations et visiteurs dans une ambiance conviviale et festive. L'occasion de découvrir des produits et des initiatives locales, d'échanger avec les acteurs économiques du territoire et de partager un moment festif en famille ou entre amis. La 27e foire exposition de Gourdon débute aujourd'hui jusqu'à dimanche.
C'était le journal régional qui nous était proposé par Éric Leclerc aujourd'hui. Le Tout Info se présente ce midi, se poursuit en compagnie de Anne Deloy qui nous propose toutes les semaines ce nouveau rendez-vous de dorénavant tous les vendredis par Solidairement Votre, une chronique solidaire comme son nom l'indique bien sûr.
La chronique solidaire avec les acteurs solidaires de nos territoires.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, notre chronique Solidairement Vôtre va nous permettre d'entendre encore parler de la Cité Saint-Pierre. Ça nous est déjà arrivé, mais là, spécialement parce que c'est les 70 ans. Alors, avec moi au micro de Radio Présence, Jérôme Congrand, vous êtes directeur adjoint de la Cité. Alors, peut-être même avant de parler du 70e anniversaire de la Cité Saint-Pierre, moi j'aimerais bien connaître, Jérôme, vos motivations. Parce que vous avez eu dans votre vie professionnelle, il y a quelques années encore, une responsabilité, notamment dans des stations de ski, donc dans le monde du tourisme, on va dire entre guillemets, je veux dire laïque, ici, dans les Hautes-Pyrénées d'ailleurs. Et maintenant, vous êtes sur un site, alors, qui n'est pas vraiment un site touristique, même si c'est un très très beau site, il y a autre chose qui s'y vit que simplement venir et faire du tourisme. La Cité Saint-Pierre, vous êtes directeur adjoint de la Cité Saint-Pierre, qu'est-ce qui a motivé cet engagement professionnel ?
Ouh là là, on pourrait en parler pendant des heures, je vais essayer d'être court. Bonjour Anne, bonjour aux auditeurs de Radio Présence. Donc oui, moi j'ai une carrière de 12 ans en fait en office de tourisme et dans les structures touristiques. J'ai un diplôme à la base en développement territorial. J'ai travaillé longtemps au Pays Basque sur la côte et aussi à la station de Saint-Lary-Soulan où j'étais directeur. Pourquoi avoir rejoint déjà Lourdes ? Ça c'est une première question. Alors moi j'ai grandi dans une famille chrétienne, mes parents avaient une livrée religieuse sur Pau, donc c'était naturel. Et pour moi, Lourdes, c'était la seconde paroisse, quoi. Entre Pau et Lourdes, on est juste à côté. On était très souvent là les dimanches avec mes parents. Et j'ai toujours aimé Lourdes. J'ai toujours rêvé de travailler pour Lourdes. Donc au départ, c'est vrai que je réfléchissais de travailler au sanctuaire. Enfin voilà, comment m'investir à Lourdes ? C'était plus cette question-là. Et puis un jour, je vois cette annonce de la Cité Saint-Pierre. Je connaissais pas forcément. Et puis je me dis, ben, pourquoi pas ? Voilà, avec ce rêve de travailler pour Lourdes et pour le message de Lourdes. Et là, je rencontre le directeur de l'époque, Olivier Roussy, qui me présente le projet de la Cité Saint-Pierre d'accueillir voilà les personnes qui n'avaient pas les moyens de vivre un pèlerinage et de se payer l'hôtel à Lourdes. Voilà, j'ai trouvé le projet tellement beau, je me suis dit, mais en fait, je peux mettre à profit mes connaissances professionnelles parce qu'en fait, c'est beaucoup des techniques qu'on a, mais en fait, tout dépend ce qu'on en fait, quoi. On peut être un politique et en faire quelque chose de très beau comme quelque chose de terrible, et c'est comme tout outil, on peut en faire quelque chose de très beau et quelque chose de terrible. Et donc, j'ai voulu mettre ce savoir-faire un petit peu au service de l'accueil des précarités à Lourdes et au service de la cité Saint-Pierre et de Lourdes en général.
Alors, en fait, il y a 70 ans, hein, en 1955, c'est Monseigneur Jean Rodin qui va créer la cité Saint-Pierre. Et je pense que l'esprit dans lequel vous travaillez, qui est un esprit, en fait, de vous voulez redonner de l'humanité à la cité Saint-Pierre, à toutes les personnes qui fréquentent la cité, ça, c'est quelque chose qui tenait à cœur à Monseigneur Rodin. Alors, moi, je suis habituée de l'appeler Monseigneur Rodin, parce que j'ai toujours entendu dire que c'était lui le fondateur de la cité Saint-Pierre. Mais il y a quelque temps, je vous ai entendu parler plutôt de l'abbé Rodin. Pourquoi ? Alors, quelle différence on peut faire ?
Alors, déjà, donc, ça nous arrive aussi de l'appeler Monseigneur Rodin. Mais en fait, il n'est pas évêque. Enfin, quand on entend souvent Monseigneur, on entend le mot d'évêque derrière.
C'est vrai que c'est... Responsable d'un diocèse.
Voilà, responsable d'un diocèse en charge pastorale. Monseigneur Rodin, en fait, dans sa vie, bien sûr, il a été ordonné prêtre dans les années 20. Et en fait, c'est par son investissement, d'abord auprès des prisonniers de guerre, puis après auprès du Secours catholique, puis de Caritas Internationalis, que le pape Paul VI s'est dit, il faut l'aider, cette personne, à ce qu'il puisse percer dans des milieux politiques, percer dans des milieux, des fois d'église, etc. Et c'est vrai qu'à l'époque, si on n'était pas évêque, c'était plus difficile si on était simple prêtre. Donc, il fait ce que le pape Paul VI lui donne le titre de chapelain de sa sainteté, qui confère le titre de Monseigneur. Donc, en fait, l'abbé Rodin, c'est quelqu'un de très simple. Alors, très engagé, très réfléchi, très, très observant, on va dire. Mais c'est quelqu'un qui n'oublie pas que sa mission première, c'est d'être prêtre et de parler du Christ. Quand il fonde le Secours catholique, c'est bien sûr un organisme de charité, mais fondé sur l'Évangile. C'est toujours très important pour lui. Cette mission de prêtre est première. D'ailleurs, sur sa tombe, il demande à ce qu'on marque juste Jean Rodin, prêtre. Il ne cherche pas à mettre marqué Monseigneur, fait chapelain de sa sainteté par Paul VI, et ainsi de suite. C'est quelqu'un de toujours très simple. Et en fait, ce titre de Monseigneur, c'est un passe-partout, ça permet d'ouvrir des portes. Mais il était profondément ancré dans son sacerdoce. Donc c'est souvent plus par attachement à la figure que je dis l'abbé Jean Rodin, plus que Monseigneur, même si j'ai beaucoup de respect pour lui et que ça m'arrive aussi de l'appeler Monseigneur.
Merci, ça nous fait comprendre un peu plus la personnalité quand même de l'abbé Jean Rodin. Oui. Alors, pourquoi a-t-il voulu... C'est des choses que vous avez déjà dû exprimer au micro de Radio Présence, mais c'est toujours important. Pourquoi l'abbé Rodin a voulu créer ce lieu très particulier à Lourdes, ce lieu qui s'appelle la cité Saint-Pierre ?
Alors, pour plein de raisons. Déjà, l'abbé Rodin, depuis l'enfance, a une grande dévotion mariale. Il aime beaucoup Lourdes, donc il y vient très très régulièrement. Et au cours de l'un de ses voyages à Lourdes, en 54 ou en 53, je ne me rappelle plus la date exacte, il est à la gare, il attend son train pour Paris et il rencontre une famille qui semble très fatiguée. Il s'approche de cette famille et leur dit « Mais vous semblez très fatigué, qu'est-ce que vous est-il arrivé ?» Enfin, voilà. Et le père de famille explique qu'en fait, il aurait pu venir à Lourdes en passant deux nuits à l'hôtel pour vivre son pèlerinage avec son épouse. Mais lui voulait vivre ce pèlerinage avec aussi ses enfants et sa famille. Et donc, en fait, en voulant vivre ce pèlerinage de cette façon-là, il n'avait pas le choix de prendre le train couchette, d'arriver à Lourdes, de dormir sur les bancs du sanctuaire, puisqu'à l'époque, le sanctuaire était ouvert H24. Et du coup, c'est pour ça que les enfants étaient très fatigués par ce voyage. Et donc, l'abbé Rodin est touché. Il leur demande aussi s'ils avaient pris le temps de visiter un petit peu les extérieurs de Lourdes, de voir les beautés de la création, comme Cotteret, le pont d'Espagne, etc. Donc, cette famille dit non, bien sûr. Et donc il est touché par ce message et donc il se dit il faut faire quelque chose. À l'époque, il y avait aussi une intuition de l'évêque de Tarbes et Lourdes de faire quelque chose, de respecter le vœu de Sainte Bernadette qui voulait que tout le monde puisse être accueilli à Lourdes, même ceux qui avaient peu d'argent. Et donc la vision des deux, de l'évêque de Tarbes-Lourdes et de l'abbé Rodin, va permettre la création de la cité Saint-Pierre. Donc au départ, il achète un terrain de 12 hectares, il faut construire des bâtiments. Aujourd'hui, c'est quand même... Alors à l'époque, c'était le dortoir, mais aujourd'hui, on a 220 chambres, c'est quand même grand. Donc c'est la générosité vraiment internationale qui va aider à cette construction. Le subventionnement des lits par le Secours catholique, le financement d'un bâtiment par les œuvres du pape Pie XII, le financement d'un bâtiment par l'Ordre de Malte, le financement d'un autre bâtiment par la conférence Saint-Vincent de Paul, un autre bâtiment par les usines Fiat. C'est vraiment la générosité internationale qui va permettre de créer cet endroit.
Alors, puisqu'on est dans l'année des 70 ans, bah, il y aura peut-être un gâteau d'anniversaire avec ces 70 bougies à souffler. Mais quels sont les événements que vous allez mettre en place ou que vous avez peut-être déjà commencé à mettre en place?
Oui, alors on a souhaité vraiment fêter ces 70 ans ancrés dans Lourdes, ancrés dans le Christ, parce qu'on est quand même sur un lieu de pèlerinage, même si on accueille toute religion. Voilà, Lourdes, c'est pas rare d'accueillir des personnes musulmanes ou des personnes qui croient pas. Voilà, à Lourdes. Donc déjà, on a retenu pour thème, depuis 70 ans, pèlerin d'espérance, témoin de résurrection au pluriel. Parce que oui, à la Cité Saint-Pierre, vous l'avez peut-être entendu des fois sur cette radio, mais on accueille des gens qui ont connu la rue, qui des fois ont plus l'habitude de dormir dans une chambre, qui trouvent que l'accueil est formidable. Et des fois, ce passage à Lourdes a permis des résurrections de personnes voilà, qui ont connu la rue, qui ont pu se relever suite à un pèlerinage à Lourdes. C'est pour ça qu'on a choisi un petit peu ce thème. Donc depuis le début de l'année, de façon classique, on a créé une fresque sur le thème d'année du jubilé, voilà, en mettant en avant ces fameuses résurrections à la Cité Saint-Pierre. On en a fait une inauguration au mois d'avril avec la conférence des évêques de France qui était en session à Lourdes, voilà, avec Monseigneur de Boulogne-Beaufort, des bénévoles de proximité. On a aussi animé un tridôme pascal avec une couleur un peu secours catholique, voilà, accueil de tous et temps de partage.
Sur place à la Cité Saint-Pierre.
Sur place à la Cité Saint-Pierre, ouais, donc du 18 au 20 avril. Les semaines qui ont précédé, là, on avait fait une semaine Laudato aussi avec toute une série d'animations, voilà, pour les pèlerins qui étaient là sur la maison et puis aussi pour les permanents et les bénévoles. Donc on a essayé d'animer un petit peu, de leur donner une connotation à l'année. Et puis bien sûr, on aura le grand temps festif. On fêtera les 70 ans de la pose de la première pierre avec le réseau Saint-Laurent, qui est un réseau de solidarité en France et qui a l'habitude de se retrouver pour la Saint-Laurent à Lourdes pour faire un pèlerinage, puisque la Saint-Laurent est le patron du secours catholique. Et puis on fera une grande clôture de ces 70 ans, ouverte à tous, notamment aux Lourdais et puis aux personnes qui souhaiteraient venir d'un peu plus loin, à l'occasion de la fête de la vache et de la brebis lourdaise qu'on accueille pour la deuxième année, le 7 octobre. Donc voilà, on accueillera de façon un peu plus grande avec des animations propres aux 70 ans, voilà, pour s'ancrer bien dans le territoire aussi également.
C'est beau, on va essayer de participer à l'une ou l'autre de ces festivités. Ouais. Alors, Jérôme, merci, on va vous souhaiter encore bon préparatif et puis longue vie à la Cité Saint-Pierre.
Ben oui, et puis s'il y a aussi des auditeurs de Radio Présence qui veulent participer en tant que bénévoles, on accueille gratuitement d'une semaine à trois semaines, donc ça sera avec joie s'ils veulent participer à cette belle mission.
Merci Jérôme, ça entendu.
Merci Anne, merci à nos auditeurs.
La chronique solidaire avec les acteurs solidaires de nos territoires.
Allez, dans quelques instants, nous nous intéresserons à la littérature occitane. Pas tout à fait, mais c'est simplement parce que c'est Victor Hugo que nous allons découvrir dans quelques instants, qui a écrit sur l'Occitanie. Nous serons en compagnie de Catherine Albrecht, juste après My Way, Frank Sinatra.
My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. I traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my way. Regrets, I've had a few. But then again, too few to mention. I did what I had to do and saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times I'm sure you knew when I bit off more than I could chew.
my fill, my share of losing. And now, as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that. And may I say, not in a shy way, oh no, oh no, not me, I did it my way. For what is a man? What has he got if not himself? Yes, it was my way.
Radio Présence à Tarbes et Lourdes, 96.
Et pour terminer en beauté ce Présence Midi, je vous propose de retrouver la chronique littéraire de Catherine Albrecht, qui nous propose de découvrir ou de redécouvrir des auteurs qui ont écrit sur notre belle région, l'Occitanie. Voici Victor Hugo aujourd'hui.
Du Pays basque au rivage de la Méditerranée, les Pyrénées ont inspiré quantité d'écrivains célèbres. Ces monstres sacrés de la littérature évoquent avec talent les panoramas d'exception, les souvenirs d'enfance, leurs aventures dans les fameux sites pyrénéens. Écoutez, voyagez, rêvez, vibrez, admirez, aujourd'hui avec Victor Hugo. Le 18 juillet 1843, une diligence quitte Paris, direction Bordeaux et l'Espagne. Elle emporte vers les Pyrénées Victor Hugo et Juliette Drouet, sa maîtresse depuis une dizaine d'années. Cela fait maintenant 3 ans, une éternité, que Juliette, qui vit cet amour dans la clandestinité, attend ce moment. Ce voyage, plusieurs fois promis, plusieurs fois repoussé, va maintenant se réaliser. Victor lui a écrit quelques jours avant « Bientôt nous serons réunis ensemble, seuls ensemble, et pour 2 mois. Tu seras joyeuse et je serai heureux. » Je baise ton front, tes yeux et ta belle âme sur ta jolie bouche. Pour sa famille, sa femme Adèle, dont il est à présent séparé, sa fille adorée Léopoldine, Victor part pour raison de santé. Il va aux eaux pour soigner des rhumatismes et une ophtalmie. Il écrit d'ailleurs à Léopoldine, qui se plaint de ne pas assez le voir. J'ai un voyage à faire d'abord, soit aux Pyrénées, soit à la Moselle. Voyage de santé qui me remettra un peu les yeux. Voyage de travail aussi, tu sais, comme tous mes voyages. Après, mon butin fait, ma gerbe liée, j'irai vous embrasser, tous mes bien-aimés. Son butin, ce sont les souvenirs, les notes, les dessins qu'il griffonne sur son carnet de voyage et qui deviendront plus tard une strophe de poème ou quelques lignes d'un roman. Ils arrivent à Bordeaux le 20 juillet, puis Bayonne et l'Espagne jusqu'au 13 août, avant le retour en France et la cure à Cauterets. L'arrivée au Pays basque a fait ressurgir de lointains souvenirs. Victor est déjà venu à Bayonne avec ses frères et sa mère il y a 32 ans, au printemps 1811. Il avait 9 ans. Ils allaient alors rejoindre leur père Léopold, général d'Empire, en poste à Madrid. C'est au cours de ce séjour qu'il avait fait la connaissance de la fille de leur logeuse, qui venait souvent jouer avec les enfants Hugo, surtout avec Victor, à qui elle lisait des histoires. Cette belle enfant venait jouer avec nous. Quelquefois, Albert et Eugène, mes aînés, plus grands et plus sérieux que moi, et faisant les hommes, comme disait ma mère, allaient voir l'exercice à feu sur le rempart ou monter dans leur chambre pour étudier Sobrino et feuilleter Carmont. Alors j'étais seule. Je sentais l'ennui venir. Que faire ? Elle m'appelait et me disait « Viens, que je te lise quelque chose ». Il y avait dans la cour une porte rehaussée de quelques marches et fermée d'un gros verrou rouillé que je vois encore. Un verrou rond, à poignée en queue de porc, comme on en trouve parfois dans les vieilles caves. C'était sur ces marches qu'elle allait s'asseoir. Je me tenais debout derrière elle, le dos appuyé à la porte. Elle me lisait je ne sais plus quel livre ouvert sur ses genoux. Nous avions au-dessus de nos têtes un ciel éclatant et un beau soleil qui pénétrait de lumière des tilleuls et changeait les feuilles vertes en feuilles d'or. Un vent tiède passait à travers les fentes de la vieille porte et nous caressait le visage. Elle était couchée sur son livre et lisait à voix haute. Pendant qu'elle lisait, je n'écoutais pas le sens des paroles, j'écoutais le son de sa voix. Il arrivait parfois dans ces moments-là qu'elle levait tout d'un coup ses grands yeux et elle me disait « Eh bien, Victor, tu ne m'écoutes pas !» J'étais tout interdit, je rougissais et je tremblais et je faisais semblant de jouer avec le gros verrou. Je ne l'embrassais jamais de moi-même. C'est elle qui m'appelait et me disait « Embrasse-moi donc !» Le jour où nous partîmes, j'eus deux grands chagrins, la quitter et lâcher mes oiseaux. À travers les mots, le regard inspiré par nos belles Pyrénées, nous avons pu apprécier le talent de Victor Hugo. Merci à Jean-Paul Azam pour son anthologie littéraire illustrée intitulée « Mots et merveilles des Pyrénées », inspirant tous mes récits.
Et voilà, c'est ainsi que s'achève cette émission, ce Présence Midi, que j'ai eu plaisir de partager avec vous. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très belle journée à l'écoute des programmes de Présence, sans oublier de retrouver la prière du chapelet, comme tous les jours, en direct sur notre antenne à partir de 15h30 pour toutes vos intentions. Très belle journée à vous tous. Yeah.
Présence à Moissac 93.3.
Radio Vatican.
Le journal.
Le journal.
Faire grandir la spiritualité de la fraternité, elle est le nom le plus authentique de la proximité. Léon XIV